BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Il est 15h, on est en direct BFM Crypto, le club. On est ensemble pour une demi-heure et aujourd'hui spécifiquement on va parler de sécurité, d'hygiène numérique, de sécurité physique aussi. Vous le savez, c'est un très gros sujet dans le secteur de la crypto et on a les derniers chiffres. On va en parler avec Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale qui est à distance. Bonjour Grégory.
Bonjour à tous.
Marc-Antoine Campoletti, journaliste chez Crypto, c'est également à distance. C'est votre sujet. Bonjour Marc-Antoine.
Bonjour Sandra. Bonjour
et Tony Largeau est avec nous également, directeur des opérations chez Black Eyes. Bonjour Tony. Black Eyes France, on va en parler dans un instant. Vous savez que vous pouvez nous poser toutes les questions qui vous intéressent sur le secteur crypto à cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. Le club BFM Crypto, c'est parti. Avec ces chiffres, donc, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes, qui a annoncé 77 séquestrations, enlèvements, extorsions, tentatives liées au secteur des crypto-monnaies enregistrées depuis le début de l'année. Marc-Antoine Campoletti, c'est votre domaine, ça. Hein, vous enquêtez beaucoup là-dessus pour Cryptost. On n'a jamais été aussi attaqué en France. Ça nous paraissait déjà énorme en 2025, mais c'était bien moins.
C'était bien moins, mais la tendance ne fait qu'accélérer, en fait, notamment avec les fuites de données. Qui nourrissent tous ces enlèvements. Donc, plus il y a de fuites de données, plus il y a d'attaques, plus ensuite on a de petites équipes ou d'espèces de start-up criminelles ad hoc qui vont mener des enlèvements, qui vont identifier des cibles. D'autant que on a eu un phénomène, en fait, au début, on avait surtout des VIP qui allaient être ciblés. Oui. Et en fait, petit à petit, le profil de la victime s'est démocratisé. Donc, on a un peu des gens très discrets, des gens qui pourtant font attention à ce qu'on appelle leur hygiène numérique, du moins en apparence, c'est-à-dire qu'ils ne se prennent pas en photo sur Instagram avec leur Rolex, mais qui apparaissent dans la fuite de données Ledger ou Altio, qui est ensuite recoupée avec d'autres fuites de données et qui finit par être attaquée chez elle par un commando pas toujours très professionnel.
C'est intéressant ce que vous dites parce que je l'ai lu aussi plusieurs fois, Ledger et Waltio, c'est vraiment les deux attaques qui ont fait le plus de mal sur les dernières attaques qui ont eu lieu ces dernières semaines. Ça a alimenté ce phénomène-là particulièrement, ces trois fuites-là.
Oui, en fait, quand on parle aux victimes, systématiquement, ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles ont été, parce qu'elles ont quand même reçu un mail, et elles savent qu'elles figurent dans les fuites Ledger ou dans les fuites Waltio. Il faut en plus savoir que voilà, Waltio, c'est un service qui permet de déclarer ses revenus fiscaux, faire sa déclaration fiscale par rapport aux cryptos. Donc, on est directement en fait dans le sujet du patrimoine crypto. Et Ledger aussi, voilà, c'est une information qui permet de savoir pour les criminels que la victime potentiellement détient chez elle un Ledger, ce qui fait qu'elle aura pas forcément les garde-fous que peuvent offrir d'autres plateformes centralisées. Non pas que ce soit toujours une protection efficace, mais voilà, elles savent qu'elles peuvent venir trouver le Ledger, torturer la personne et ensuite repartir avec le butin.
Grégory Raymond, vous travaillez aussi beaucoup sur ces sujets-là, sur la sécurité. Évidemment, Laurent Nunes a promis un renforcement de la sécurité des acteurs du secteur avec trois axes, précisément. On va en parler, bien sûr, mais est-ce que ça vous paraît être crédible? Est-ce que ça vous paraît être important que le ministère se penche un peu sur la question? Ça commence à faire beaucoup. On est les champions du monde, quand même.
Oui, tout à fait. Après le ministère de l'Intérieur prend les choses très au sérieux quand même depuis pas mal de mois. Je les ai approchés moi personnellement en début d'année. Le sujet est vraiment pris très au sérieux. Mais il faut quand même aussi rajouter des nouveaux éléments qui sont à la disposition des équipes criminelles depuis quelques mois. En fait, c'est des outils qu'on appelle des searchers. Alors en fait, tout simplement, c'est des sites, il y en a à peu près une dizaine, qui agrègent les données issues de toutes les fuites qu'on peut trouver sur Internet. Ouais. Et en fait, ce sont des sites qui sont payants à l'usage, c'est plus ou moins sur le Darknet. Et en fait, on peut taper le nom de quelqu'un, et en fait, on va voir tout ce qui est un peu rattaché à cette personne à travers les fuites. Et on voit même aussi les montants en crypto-monnaie. Alors bien sûr, il faut pas donner le nom de ces searchers, mais ce sont des outils qui sont à la disposition aujourd'hui des équipes criminels. Donc il faut faire très attention. Et en termes de bonnes pratiques, on le redira jamais assez, il faut avoir des alias. Il ne faut pas avoir un email avec nom, prénom, qu'on laisse traîner un peu partout, parce que là c'est le meilleur moyen de se faire identifier.
Alors on va parler évidemment de l'hygiène numérique que doivent avoir les investisseurs, mais Marc-Antoine Campoletti, il y avait trois axes dans ce plan qu'a présenté Laurent Nunez. Renforcement des échanges de renseignements entre pays, parce qu'on sait que les commanditaires sont dans d'autres pays. Renforcement du partenariat avec la DAN et renforcement de la coordination opérationnelle entre les services pour neutraliser les malfaiteurs. Est-ce que ça, pour vous, c'est un bon début? On travaille sur les bons axes?
Écoutez, effectivement, je pense que un gros problème aujourd'hui, c'est le manque de collaboration, comme vous l'avez dit, au niveau international. Donc là, on a des obstacles qui dépendent de la géopolitique et des relations qu'il peut y avoir entre Dubaï, l'Algérie, le Maroc et la France, par exemple. On a aussi besoin de plus de collaboration avec les acteurs privés, donc la DAN, mais aussi d'autres entreprises, les plateformes, toute cette typologie d'acteurs. Mm-hmm. Et effectivement, il y a un troisième point très intéressant, c'est bien que le ministre de l'Intérieur en parle, parce que le manque de collaboration entre les services, nous, pour avoir parlé avec des victimes, pour avoir parlé avec des experts proches du ministère de l'Intérieur, beaucoup en fait disent que l'OFAC qui dépend de la police nationale et l'UN cyber qui dépend de la gendarmerie, qui sont deux services cyber censés avoir juridiction en France, qui ont été créés au même moment par le même décret en 2023, alors que c'était un décret qui était censé centraliser la lutte cyber. Et en fait, ces deux services sont dans les faits en compétition. Et on a même eu des témoignages, notamment de victimes, qui affirment que pendant un enlèvement, un des services, au lieu d'enquêter sur l'affaire vu qu'elle ne lui avait pas été confiée, enquêtait en fait sur le service concurrent pour savoir ce qu'il savait de l'affaire. Mmh. Et ce manque de collaboration a été pointé du doigt par un rapport de l'Assemblée nationale dès 2024, puisque dans les prérogatives de l'UN Cyber et de l'OFAC, en fait, on avait plus ou moins les mêmes champs d'action, les mêmes prérogatives, les mêmes missions. Et dès 2024, un an après la création, on sentait déjà qu'il y allait avoir potentiellement un risque de concurrence et de redondance des services. Et il y a un troisième service au niveau du ministère de l'Intérieur qui s'appelle le ComCyber, je crois, qui a été créé également. Il y avait des rapports qui disaient que le ComCyber était rempli à 90% de gendarmes. Donc, il y a eu des changements. Le numéro 2, le numéro 3, je crois, récemment, qui ont fait une rotation, donc qui vont partir. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire et on est un peu pris dans des guerres de chapelle, alors que derrière, les criminels, eux, sont dans une phase d'accélération exponentielle. Ils se diversifient, ils exploitent les ressources technologiques dernier cri, les failles juridiques internationales. Ils vont aller chercher comme une boîte qui fait de l'évasion fiscale et qui va aller trouver une faille juridique pour trouver le bon pays, bah eux, ils vont aller se mettre au pays qui convient pour mener à bien leurs petites opérations, quoi.
Alors, avant de revenir sur les solutions qu'on a pour se protéger numériquement, se protéger physiquement, on verra ça avec vous aussi, Tony, dans un instant. Laurent Nunez dit, 8 heures après un fait, vendredi dans la Somme, les auteurs ont été interpellés. Ça veut quand même dire, Grégory, qu'il y a une réponse policière, judiciaire, assez rapide, malgré cette guerre de chapelle.
Oui, tout à fait. Alors, le travail des enquêteurs, il est quand même d'excellente qualité depuis pas mal de mois. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas révélées publiquement pour ne pas gêner l'enquête. Mais moi, j'ai pas mal d'infos et je peux vous dire que ça bosse bien. Par contre, il faut vraiment se rendre compte que leur travail, il est lent. Mais parce qu'il est en fait, il nécessite d'être méticuleux. C'est en fait, si vous voulez, il faut réunir suffisamment de preuves pour que les interpellés en fait restent en détention. Quand une fois qu'ils sont arrêtés, parce que vous savez, si le dossier n'est pas assez solide, en fait, même si ces gens-là, on a la conviction qu'ils ont commis ces crimes-là, en fait, il y a vraiment le risque qu'ils ne restent pas en prison très longtemps. Donc, il faut monter des énormes dossiers. Ça prend du temps, et d'autant que, en fait, le profil des suspects, il est assez singulier parce que, en fait, beaucoup changent fréquemment de pseudonyme entre eux. Ils s'achètent, ils se les échangent entre eux via des boucles sur Telegram. Donc, c'est assez complexe en fait de monter ces dossiers-là, mais les enquêteurs sont font partie quand même de la crème de la police et de la gendarmerie en France.
Oui, ça tombe par grappe, effectivement. On constate hein, quand les affaires sont jugées assez rapidement. On va voir un petit peu ce qui se fait contre ces attaques. Alors, on parlera de l'hygiène numérique et de ce qu'on peut mettre en place tout à l'heure avec vous, Grégory. Il y a aussi les attaques physiques. On l'a dit, Tony Largeau, les attaques physiques, elles arrivent après les fuites de données, après l'imprudence numérique. Ça se retrouve sur le terrain. Vous êtes à la tête de Black Eyes. C'est quoi Black Eyes ?
Alors Black Eyes, c'est une entreprise française spécialisée dans la sûreté des personnes. Donc nous, on n'est pas sur la cybersécurité, mais vous allez voir que
vous êtes en bout de chaîne en fait.
Quelque part, mais il y a quand même une étroite collaboration entre les deux domaines. On est avant tout fabricant de dispositifs innovants anti-intrusion qui ont été pensés par un membre actif d'une unité d'intervention de la police nationale, donc vraiment avec un retour terrain et une expérience des situations que vous avez évoquées, notamment d'enlèvement. Et on a un écosystème complet en fait qui permet de se créer une safety room en quelques secondes chez soi, parce qu'on parle des acteurs de la crypto, mais on pourra en discuter. On est sur d'autres secteurs d'activité, et donc ça vous permet de créer une safety room chez vous, avec un objectif principal, gagner un maximum de temps et faciliter le temps d'intervention des forces de l'ordre.
Avant de voir comment ça fonctionne et exactement, concrètement, comment ça marche dans un cas de danger, vos clients, c'est qui ?
Alors, c'est une très bonne question. Il y a quelques années, on a démarré, donc l'entreprise a un peu plus de 5 ans maintenant, on a démarré dans les collectivités. Assez naturellement dans les salles de classe, parce que l'actualité fait qu'on est aussi sur ces sujets-là. Ensuite, le milieu hospitalier. Donc, on a la chance d'avoir le premier hôpital de France qui est capable de confiner patients et soignants en quelques secondes, parce que vous allez voir que le temps, c'est capital dans ce qu'on fait.
Ouais.
Et puis, assez naturellement, les grands groupes, les dirigeants de ces grands groupes, par ricochet. Et plus récemment, effectivement, les problématiques rencontrées sur la crypto-monnaie.
Vous avez eu une augmentation de ces profils-là, dernièrement ?
Totalement. Déjà, les situations de homejacking a fait que, forcément, il a fallu qu'on s'adapte à ces nouvelles menaces. On est dans un environnement où l'adaptabilité, c'est capital.
Ouais.
Et je profite de cette tribune pour vous annoncer qu'on a développé un partenariat stratégique avec Red Square, qui est un acteur de la cybersécurité. Et avec cet objectif, encore une fois, commun de décloisonner cybersécurité et sûreté humaine, ce qu'évoquait un petit peu Marc-Antoine, le fait de vraiment travailler en co-construction ensemble. Et donc, derrière, ça permet de pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques.
Ça veut dire qu'on sécurise finalement, on sécurisera son environnement numérique et cyber avec eux, avec Red Square.
Un peu comme un audit complet.
D'accord.
Imaginez un audit complet.
Et derrière, on sécurise la maison en plus.
Protection des données, cybersécurité, protection humaine, Black Eyes.
Parce que c'est vraiment ça qu'on constate, notamment chez les patrons crypto, même si là, les cibles, finalement, on l'a dit, se sont élargies finalement aux patrons lambda ou plus discrets. Mais finalement, c'est ça. Il faut agir sur ces deux aspects-là pour garantir, au final, une sécurité.
Exactement. Nous, notre créneau, c'est vraiment la sûreté humaine. C'est comment se protéger quand ça arrive. Oui,
allez-y. continuez.
Et je pense que ce qui est capital, c'est vraiment de gagner du temps. Nous, on a mis en place, on a développé des solutions qui sont très opérationnelles, qui vous permet de vous confiner, de vous protéger, quel que soit le lieu où vous êtes, que ce soit chez vous, à l'hôtel, etc.
Ça m'intéresse parce que là, ce qu'on dit, ce qu'on voit, quand on voit les scénarios de ce qui se passe dans les enlèvements et les séquestrations crypto, ça se passe en 3 minutes. Ils arrivent à choper leur cible entre deux portes parce qu'ils sortent de chez eux, tout ça. Comment on fait dans ces cas-là ? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour gagner du temps et se protéger dans des situations comme ça ?
Je vais vous montrer l'un de nos dispositifs parce que je pense que le voir en visu, c'est quand même beaucoup plus parlant. Ce type de dispositif, alors déjà, il est médaille d'or au concours Lépine, prix du préfet de police, trophée, médaille d'or au trophée de la sécurité. C'est important de le dire également. Ce dispositif, en fait, il vient se positionner sous la porte. En quelques secondes, vous faites 3 pressions et vous êtes capable de confiner une pièce et donc de résister. On l'a testé avec un dispositif qui envoie 7 tonnes de pression.
On ne peut plus ouvrir la porte.
On ne pouvait plus ouvrir
Vous
la porte.
Vous êtes dans une pièce protégée.
Exactement, ouais. Et l'objectif principal, ne l'oublions pas, gagner du temps. Donc si c'est 15 minutes, 20 minutes,
ouais.
C'est un délai incompressible où vous allez devoir subir l'agression. Et donc ce délai-là, ça permet aux forces de l'ordre de pouvoir intervenir le plus rapidement possible.
Oui, c'est très intéressant. Il faut vraiment agir sur les deux leviers. Grégory Raymond, vous avez rencontré les fondateurs d'une autre entreprise. Ça s'appelle Perimeter Lab. Là, on agit sur la sécurité numérique, en réalité. Comment ça fonctionne? C'est quoi cette boîte?
Alors moi je trouve ça très intéressant parce que déjà ce sont des personnes directement impliquées par le secteur parce que ce sont des anciens de Ledger.
Oui.
Et en fait le concept c'est que on va créer des wallets crypto qui vont servir de leurre. Et en fait dès que va y avoir des cryptos qui vont sortir de ces wallets, par exemple pour payer une rançon, ce qui est le cas en fait quand vous vous faites agresser, en fait même s'il y a un centime qui sort de ce wallet, ça déclenche en fait une alerte chez eux et ils vont essayer de vous appeler si jamais pour vérifier que ce soit pas une erreur, mais si vous ne répondez pas ou si vous donnez des indices comme quoi il y a une attaque, en fait ça fait intervenir les brigades d'intervention les plus compétentes dans les minutes qui viennent. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Et aussi votre téléphone portable et traqué par une puce GPS. Donc, en fait, en permanence, on peut savoir où vous êtes. Bon, il y a quand même quelques limites à ce genre d'outils. C'est que quand il y a une agression, souvent, les agresseurs finissent par se débarrasser du téléphone. Néanmoins, ça permet de savoir à l'endroit où vous avez été théoriquement enlevé, ou votre famille, parce que vos proches, vous pouvez mettre plein de gens en fait dans le cadre de ce système-là. Mais donc oui, voilà, même si le téléphone est jeté, il y a quand même plein de caméras, donc on peut quand même par croisement voir où vous êtes. Alors, c'est pas l'outil parfait, mais moi j'estime que en cas d'agression, si l'agression se produit, c'est ce qui donnera le plus d'avantages aux équipes de la police pour vous retrouver le plus aisément possible, on va dire.
Ça s'adresse à qui concrètement, Perimeter?
Bah en fait à tous ceux qui ont peur, hein. Mais bon, moi je vais plutôt vous parler de budget.
Ouais.
Ça coûte c'est à partir de 990 euros par an. Donc en fait, si vous estimez que c'est rentable par rapport à ce que vous avez, voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut décider. Après, si vous rajoutez des membres de votre famille, voilà, ça fait grimper un peu l'addition. Mais voilà comment ça fonctionne. En tout cas, ce qui est très important que les gens aient envie d'aller sur Perimeter ou pas, c'est d'avoir un wallet qui pourrait servir qu'à ça. Ça peut permettre de gagner du temps. Par exemple, voilà, si vous avez 2000 euros sur un wallet, ben ça vous permet de gagner du temps en cas d'agression. Voilà. Je sais pas ce que Tony en pense de ce genre d'outil, mais moi ça m'a semblé assez pertinent.
Tony Largeau.
Alors, effectivement, c'est pertinent. Alors, on a régulièrement des interactions avec des acteurs qui développent d'autres solutions. Effectivement, on a la chance chez Black Ace d'être au quotidien avec des opérationnels, des membres actifs d'unités d'intervention qui concrètement, ce qu'ils nous disent à chaque fois, leur pire ennemi, c'est le manque de temps et d'information. Parce que quand vous arrivez, vous prenez un bâtiment comme celui-ci, quand vous arrivez sur un bâtiment comme celui-ci et qu'il y a une agression ou une attaque, le plus difficile, c'est de savoir ce qui se passe, combien de personnes sont dans la pièce, où ça se passe, et ce type d'information-là, en fait, forcément, si vous avez des outils qui peuvent vous permettre de gagner un maximum de temps, vous passez de « je déclenche l'alerte » à « il y a une intervention » dans un temps record. Et ouais, c'est l'objectif de ce type de solution, effectivement.
On a parlé de l'abonnement de Perimeter. Vous, pour ce dispositif-là, pour créer une sorte de panic room, en fait, une pièce de sécurité.
Oui, tout à fait. Alors, on a un kit complet, safety room.
Ouais.
Globalement, on est un petit peu moins de 2000 euros, d'accord, sur
ouais,
la safety room. Et en fait, ce kit-là répond au fameux triptyque de la sûreté que vous retrouvez systématiquement, qui est alerter, informer, agir en se confinant avec ce dispositif. Et concrètement, vous pouvez, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, sur votre lieu de vacances, créer votre safety room, à l'hôtel, peu importe où vous êtes, en quelques secondes, vous créez votre safety room.
C'est hyper intéressant. Marc-Antoine Campoletti, c'est bien de créer finalement ses propres conditions de sécurité physique et numérique, parce qu'il se peut que la situation de fuite de données ne s'améliore pas. Vous vous alertez notamment sur la fermeture de Binance. Il y a une menace derrière ça ?
Alors tout à fait, au niveau de Binance, ce n'est pas forcément sur de la fuite de données. Mais en fait, un risque majeur qui est lié à la disparition, entre guillemets, officielle de cet acteur du paysage crypto français et européen, c'est le risque d'arnaque et de phishing. Donc phishing, on rappelle, c'est vous recevez un mail, quelqu'un qui se fait passer pour Binance, vous avez sur les réseaux un compte avec la coche bleue validée qui se fait passer pour un canal de communication officiel, puisque maintenant on peut les acheter, les coches. Et donc voilà, le risque, c'est d'être contacté, vu qu'il y a suffisamment d'informations qui circulent sur les détenteurs potentiels, et vu que entre 3 et 4 millions de Français sont clients Binance, en fait, les gens n'ont qu'à envoyer un très grand nombre de mails, ils sont sûrs de tomber sur des clients. Et là, le risque, en fait, c'est de jouer sur la panique, sur le manque d'informations, parce qu'on est quand même passé... il y a 15 jours de « tout va bien, on a déposé le dossier » à « il y a un peu moins d'une semaine, en fait, on n'aura pas Mika, on va fermer au 1er juillet ». Et en fait, dans cette panique, dans cette espèce de chaos, bah voilà, il y a des gens qui ne vont pas vraiment comprendre, qui n'ont pas vraiment suivi l'affaire, qui reçoivent un mail « ah oui, faites ceci, faites telle action pour sécuriser vos cryptos ». Et ils tombent dans un piège, ils vont envoyer leurs clés privées, leurs informations à des pirates qui vont ensuite aller siphonner leur compte. Donc ça, c'est le risque majeur. D'ailleurs, Binance a bien rappelé dans le mail qu'il a envoyé aux utilisateurs que l'entreprise ne contactera jamais par téléphone un client, qu'elle ne communique que par les canaux officiels et qu'il n'y aura évidemment jamais de demande de code de two-factor authentication ou de clé privée. Ça, c'est le premier risque avec Binance. Ouais. Il y en a un second, un peu moins adressé aux utilisateurs, mais qui relève quand même de la sécurité, c'est que Binance, malgré tout, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'acteur, restait essentiel dans le paysage crypto français et européen, dans le sens surtout de la coopération avec les enquêteurs, que ce soit des entreprises privées ou que ce soit des enquêteurs, des juges d'instruction, de la police et de la gendarmerie. Et cette perte d'interlocuteurs, mine de rien, bien qu'on ait vu dans certaines affaires Binance France renvoyer la balle à d'autres structures extra-européennes, cette perte d'interlocuteurs va freiner la collaboration, va mettre des bâtons dans les roues, va ralentir tout effort de remonter d'éventuels criminels, d'interagir avec les forces de l'ordre. Mais ça n'empêchera pas forcément les criminels, eux, d'utiliser Binance. Bon, donc ça ouais. Risque de compliquer les choses.
Bon, Grégory Raymond, le contexte ne sécuritaire ne s'arrange peut-être pas, mais il y a un écosystème visiblement qui se crée en termes de sécurité numérique et physique, et ça va peut-être faire partie aussi du développement du secteur. En tout cas, l'investisseur crypto doit faire attention à sa propre sécurité.
Oui, tout à fait. Mais comme je le disais en début d'émission, le plus important, c'est de laisser le minimum de traces sur Internet. Et vraiment, je le redis, le premier réflexe à avoir, c'est d'utiliser des alias sur des adresses email pour que ça ne soit absolument, enfin que vous ayez en gros une adresse par service que vous utilisez et que la présentation de l'adresse ne donne aucun indice sur qui se cache derrière. C'est vraiment le réflexe principal et je le martèle. Tout le monde devrait faire ça.
Oui, voilà, c'est noté, évidemment. Vous voulez rajouter quelque chose, Tony ?
Non, mais juste pour rejoindre un petit peu, effectivement, on a cet écosystème qu'on crée avec Credit Square sur avoir une vision 360. Mais au-delà de ça, c'est surtout rappeler l'importance d'avoir la possibilité d'avoir des outils, mais surtout des bonnes pratiques, des bonnes pratiques pour permettre justement, on en parlait un petit peu, mais le fait d'être discret, ce qu'on peut relever, c'est souvent parce que la personne a sur les réseaux, dans son cercle, dans son entourage, à communiquer, à donner trop d'informations, et c'est comme ça que ça arrive. Exemple type, on a rencontré, alors sans aller trop dans les détails, mais on a rencontré une personne là, il y a une dizaine de jours qui avait peur pour lui, qui avait peur pour son cercle familial, et qui avait peur que la menace vienne de l'interne, c'est-à-dire de son entourage, qui possédait des informations. Et donc tout ça, c'est super important en amont. Chez Black Ace, par exemple, on fait des formations. Parce qu'il y a les outils, il y a les moyens matériels, c'est bien. Mais sans formation derrière, forcément, ça ne permet pas de d'avancer. Donc, avoir à l'esprit que ces bonnes pratiques-là, c'est capital. Voilà.
C'est un enchevêtrement finalement de bonnes pratiques, d'hygiène numérique, de discrétion aussi, et aujourd'hui la discrétion est extrêmement précieuse dans ce contexte. Il nous reste une minute, Grégory Raymond, et vous aviez une info à donner parce que vous y teniez.
Oui, parce qu'on parle beaucoup de sécurité, c'est un sujet très important, mais il y a une nouvelle très importante qui est tombée aussi aujourd'hui dans le milieu des actifs numériques en France, c'est que le Crédit Agricole, donc l'une des plus grandes banques d'Europe, vient de lancer son stablecoin euro. Ça a été annoncé ce matin, c'est développé sur Ethereum, et la première utilisation, ça a été de pouvoir investir dans le fonds monétaire tokenisé de Amundi. Donc là, en fait, on voit, c'est un peu le All-Star Game. On voit Crédit Agricole, Amundi qui avance sur la tokenisation, sur les actifs numériques ensemble. Et voilà, on en parle toutes les semaines presque, Sandra, ensemble. Mais voilà, les choses sont en train de se faire, c'est en train d'arriver. C'est une très bonne nouvelle pour le développement de cet écosystème.
Oui, ça va très très vite, et notamment du côté du secteur bancaire, ça c'est très clair. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission consacrée principalement à notre sécurité numérique et physique dans le domaine de la crypto. C'est très important. Merci Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale, Marc-Antoine Campoletti, journaliste chez Crypto, c'est Tony Largeot, directeur des opérations chez Black Eyes France. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse, émission à retrouver évidemment en podcast et en replay sur notre appli et notre site. Très bonne journée sur BFM Business.
BFM Business, BFM Crypto, le club.